France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nietzsche et l'Italie, c'est notre série cette semaine. Nous suivons le philosophe allemand dans la lumière italienne qui le sauvait, pensait-il, de ses maladies diverses et de l'Allemagne qu'il concevait de plus en plus comme une maladie. Ce matin, Venise, la musique, la nuit, les masques. Il est possible que Nietzsche nous ait même légué un titre pour cet épisode sur Venise. Dans Ecce Homo, ce livre de lui écrit en 1888, publié de manière posthume, Nietzsche écrit ceci. « Quand je cherche un synonyme à musique, je ne trouve jamais que le nom de Venise. » En somme, pour lui, Venise est le nom même de la musique, ce qui a beaucoup d'implications philosophiques. Car la musique est pour Nietzsche le dernier art qui vient s'épanouir dans une culture telle la plante la plus tardive, écrit-il dans un autre texte de 1888, son fameux Contre Wagner. La musique, c'est pour lui l'accomplissement artistique parfait qui exprime les dernières décennies qui viennent de s'écouler, leur ton, leur vitalité ou leur morbidité. Or, à louer Rossini ou Bellini, Nietzsche nous dit aussi « Richard Wagner, lui, a peut-être eu des intuitions musicales fulgurantes, mais avec son Parsifal, il révèle désormais dans quelle décadence, dit Nietzsche, est tombé et lui-même et l'Allemagne. La musique transcende une culture ou dit au contraire sa chute, sa retombée. C'est cet enjeu pour Nietzsche, entre autres, qui est au cœur des pensées nietzschéennes lors de leur déambulation vénitienne. Bonjour Stéphane Flocari.
Bonjour.
Très heureuse de vous retrouver, vous qui nous avez soufflé cette magnifique idée de suivre Nietzsche en Italie. Nous y voilà donc, à quelques jours du printemps. Vous êtes professeur de philosophie au lycée Marcelin Berthelot de Saint-Maur et dans d'autres endroits, l'INSEP, même si je crois qu'elle a changé un peu de nom. Non, c'est toujours l'INSEP.
Toujours l'INSEP.
Et la Sorbonne. Bonjour Dorian Astor.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes en duplex avec nous depuis Toulouse, en effet, après avoir été un spécialiste de Nietzsche qui a écrit une biographie de ce philosophe. Et puis, vous avez aussi écrit un texte intitulé « Nietzsche, la détresse du présent », deux ouvrages qu'on peut trouver en folio Gallimard. Après avoir fait aussi un dictionnaire Nietzsche en 2017 chez Bouquin, vous avez, Dorian Astor, assouvi votre passion et votre art. Vous êtes depuis 6 ans dramaturge de l'Opéra National du Capitole de Toulouse, destinée très nietzschéenne, et je sais que c'est justement le thème de la musique que nous traitons ce matin à travers le rapport de Nietzsche à Venise, qui vous a convaincu de venir participer à cette émission d'Avec Philosophie, ce qui est rare désormais dans votre vie, vous avez tant d'occupations, mais vous venez pour Nietzsche et pour la musique. Merci beaucoup.
Oh oui. Oui.
Je ne saurais me passer de Rossini, encore moins de mon sud dans la musique de mon maestro vénitien Pietro Gasti. Et quand je dis « au-delà des Alpes », je veux en réalité dire « Venise ». Quand je cherche un autre mot pour désigner la musique, je ne trouve que celui de Venise. Je ne sais pas faire la différence entre les larmes et la musique. Je connais le bonheur de ne pas penser au sud sans un frisson de crainte. près du pont, récemment, je me tenais dans la nuit brune. Au loin vint un chant, des gouttes dorées ruisselant sur la surface tremblante, évanouie. Gondole, lumière, musique, ivre, tout cela flottait dans le crépuscule. Mon âme, comme un instrument à cordes, chantait, touchée invisiblement, en secret, une chanson de gondolier, tremblante de béatitude colorée. Quelqu'un l'écoutait-il ?
Eh bien, vous avez entendu beaucoup de choses. Des chants de gondoliers à Venise, une ambiance de rue, une chanson qui était extraite d'ailleurs des Péchés de vieillesse de Giocanino Rossini, et puis un texte de Nietzsche très beau, presque une poésie, où il évoque la chanson des gondoliers, il se demande qui l'écoute, et tout cela avec en arrière-plan, puis en premier plan, Rossini, que vous entendez à nouveau, c'est la Sémiramide. Je voudrais demander tout de suite à Stéphane Flocari s'il pense, Nietzsche, qu'il n'y a que lui qui entend, puisqu'il demande qui écoute.
C'est possible. La question de l'oreille est la question fondamentale de la musique chez Nietzsche. Nietzsche a écrit dans Aurore à une période en 1880 où il commence à fréquenter Venise, puisqu'il vient à Venise au printemps 1880, puis il y retournera au printemps 84, 85, 86, puis il reviendra en 87, donc en faisant une pause de 4 ans. Il écrit dans Aurore que, pour lui, la musique vient de l'organe de la nuit, qui est l'oreille. L'oreille, l'homme l'a développée la nuit pour écouter. Il faut savoir que chez Nietzsche, la disposition fondamentale et héréditaire de l'homme, il en parle dans Zarathoustra, c'est la peur. Donc si l'homme a développé la connaissance, ce n'est pas du tout pour atteindre la vérité, c'est pour conserver son existence. Et l'oreille, avant d'être un organe de plaisir, un organe de recherche, un organe peut-être de compréhension de soi, c'est d'abord un organe de la peur. Donc à Venise, Nietzsche arrive pas bien, il arrive malade, il avait passé des hivers à Gênes, il continuera d'ailleurs encore un peu, et il arrive à Venise, dirait-on aujourd'hui, dans la langue débraillée des jeunes gens, en vrac, n'est-ce pas ? Il arrive plié en deux, il a mal au ventre, il a mal à la tête, il n'a pas envie d'écouter de la musique, mais il y vient pour retrouver un jeune homme, un homme plus jeune que lui, qui a 10 ans de moins que lui, qui s'appelle Heinrich Kösselitz, qu'il va décider de rebaptiser de façon méridionale, italienne, en l'appelant tantôt Peter Gast, tantôt Pietro Gasti. Et ce jeune homme qui était venu suivre ses cours, les cours de Burckhardt, les cours de Overbeck, à l'université de Bâle, bah, il a noué une amitié avec lui, et il mise beaucoup sur ce garçon. Et il serait d'ailleurs intéressant de se demander ce qu'il a vraiment attendu de Gast, et ce qu'il l'a vraiment déçu chez Gast.
Il a été déçu à un moment donné, parce que j'ai cru comprendre qu'au contraire, il était le dernier à à entendre de nouveau cet enjeu, le talent de Gaz qui n'a pas en effet été reconnu.
Je pense que Koselitz, Gaz, il a gardé pour lui une amitié, et une amitié jusqu'au bout. Même si son rôle sera un peu obscur, mais Nietzsche ne le verra pas dans les archives Weimar. Il se rebrouillera finalement avec Elisabeth en 1909, mais Koselitz, Nietzsche ne saura pas ce qu'il a fait après sa mort. Et effectivement, il est resté son ami jusqu'au bout. Mais je pense que Nietzsche, non seulement a été un peu déçu par Koselitz, mais s'est déçu lui-même en Koselitz, parce qu'il avait placé en lui des espoirs, et il espérait être un peu son Pygmalion, et être celui qui le ferait connaître dans la musique. Et ça n'a pas été vraiment le cas, il n'a pas vraiment percé, en tout cas pas du vivant conscient de Nietzsche, un peu après, et modestement. Mais surtout, je pense que ce que Nietzsche espérait en Koselitz, c'est de retrouver dans sa musique une image qui soit conforme à sa propre pensée. Et ça, je ne crois pas qu'il l'ait retrouvé dans Koselitz. Mmh.
Dorian Astor, bien sûr, vous pouvez nous parler de Koselitz, de Gast, de ce musicien dans lequel Nietzsche croyait tant, mais qui peut-être a fini par le décevoir. Néanmoins, je reprends ma question du début sur l'oreille. N'y a-t-il pas chez Nietzsche cette idée que son époque ne sait pas bien entendre ?
Oui, il y a l'idée que la modernité est un chaos en termes axiologiques, en termes de valeurs, mais aussi en termes de perception. C'est-à-dire que nous sommes sa modernité est une culture de l'hypersensibilité, de l'hystérisation des sensations. Et d'ailleurs, Nietzsche reprochera à Wagner d'exacerber et d'exaspérer nos organes de perception, nous rendant tout à fait affaiblis, exposés.
Sourds.
Et sourds, d'une certaine manière. Et sur l'idée de y a-t-il quelqu'un, enfin, suis-je le seul à entendre, la question que vous posiez, elle est à mettre en parallèle avec cette intuition de plus en plus grande chez Nietzsche qu'il n'a pas de lecteur, et que le lecteur, son lecteur est un lecteur qui n'existe pas encore. Et il faut des yeux pour lire, il faut des oreilles pour entendre. Et ce que Nietzsche projette vers l'avenir, ce sont aussi de nouvelles manières de penser, de percevoir et donc d'entendre. Donc il y a, et on y reviendra sans doute, mais à Venise, il y a une espèce de point de bascule entre un retour sur soi qui est lié, comme le disait Stéphane, un état maladif, enfin il va pas bien effectivement. Donc un retour sur soi, sur le passé, on en parlera, une espèce de nostalgie, et toujours cette fragile, ces signes fragiles qui peuvent pointer vers l'avenir. Et donc Nietzsche se trouve en réalité entre les deux.
Oui, entre les deux. Alors, il y a un texte de Wagner, de Richard Wagner, c'est dans ses œuvres en prose, dans Beethoven, cette œuvre de 1870, où précisément Wagner se met en scène à Venise, enfin il raconte qu'il y ait une nuit et qu'il va entendre le chant des gondoliers et que ça va le bouleverser. Je lis. « Du silence le plus absolu s'éleva l'appel puissant et rauque d'un gondolier qui venait de s'éveiller sur sa barque. Il appela plusieurs fois dans la nuit, jusqu'à ce que de très loin, le même appel lui répondit le long du canal nocturne. Je reconnus l'antique mélodie plaintive sur laquelle on mit dans le temps les vers connus de Tasse, phrase aussi vieille certainement que les canaux et la population de Venise. » Il y a eu un Wagner qui entendait, et finalement, on ne fait pas une émission ici, là, sur Wagner, mais est-ce que Nietzsche, par-delà la colère extraordinaire qui s'exprime à la fin de sa vie envers lui et sa musique, ne reconnaissait pas quand même qu'il y avait eu des fulgurances chez Wagner, que Wagner a su entendre et donner à entendre à un moment donné ? Dorian Astor.
Absolument, et je crois même, enfin, je pense que le terme de colère que vous employez est très très juste, c'est-à-dire c'est une colère quasiment amoureuse, hein, et la violence de la réaction est dans ces textes, en tout cas après la mort de Wagner, dans les derniers textes, Nietzsche contre Wagner, le cas Wagner, qui sont des textes vraiment durs, mais Nietzsche n'a en réalité jamais méprisé Wagner, ni diminué son importance, au contraire. C'est-à-dire que plus la critique nietzschéenne de la décadence contemporaine, des dangers de la modernité, plus cette critique est devenue fine et acerbe, et plus Nietzsche comprenait la signification que portait Wagner. C'est-à-dire qu'à aucun moment, sauf quelquefois par mauvaise foi, à aucun moment il ne lui a refusé le génie qu'il lui avait accordé. Simplement, les enjeux et les enjeux philosophiques sont tels qu'il s'agit de s'arracher. Vous parliez dans l'émission d'hier de détachement. C'est même un arrachement. Et cet arrachement est absolument nécessaire dans le processus, dans la recherche philosophique de Nietzsche. Ça n'est pas un désamour, au contraire.
Alors, je précise pour nos auditeurs que Nietzsche a vraiment traité Wagner d'hystérique. Hein, c'est dans ses derniers textes, hystérique, qui est un mot désormais très piégé. Beaucoup de femmes disent que c'est toujours un mot employé avec des connotations sexistes et misogynes. C'est peut-être une façon de traiter Wagner de femme hystérique, et c'est très méchant. Le problème aussi, c'est que c'est au départ un terme, donc là il s'exprime avant Freud. Freud a tout fait pour sortir après l'hystérie de cette référence à l'utérus. Néanmoins, comme ce mot est délicat en ce moment, je voulais me permettre de donner tous ces éléments. Et on voit que Nietzsche employait le mot avant ou en même temps que Freud. Stéphane Flocari, il écrivait de la musique, Nietzsche, à Venise. Et d'abord, quelle était sa musique? Quel était son rapport à la musique et à quels instruments?
Oh, Nietzsche a écrit de la musique, c'est bien connu. Il a commencé à en écrire assez jeune. Nietzsche était quelqu'un qui était très attaché à son milieu familial et au petit cocon qu'il formait avec sa mère, sa sœur et ses deux tantes. Et donc, il était très attaché, par exemple, aux fêtes de fin d'année. Donc, il a écrit « Des nuits de la Saint-Sylvestre », qu'il voulait très touchante. Je ne sais pas si elles le sont autant qu'il aurait voulu. Il a écrit une méditation de Manfred aussi, et puis un hymne à la vie. Donc, il a essayé d'écrire, et les quelques œuvres musicales qu'il a écrites, il les a écrites et réécrites, sans doute étant pas très satisfait de ce qu'il avait fait. Et puis, il s'est hasardé à faire écouter ses œuvres à quelques personnalités importantes, notamment Hans von Bülow, et qui se sont un peu, pas moqués, mais détournés, disons, de sa musique. Donc, Nietzsche n'a jamais vraiment cru, je crois, très fortement en sa musique, même s'il dit, dans un billet ce qu'on appelle un des billets de la folie, je crois que il doit être du 27 décembre 88. Vous en parlerez demain, puisque vous parlerez de Turin.
Oui, vous savez tout.
dans ce billet de la folie, il dit à Kösselitz, « Traitez-moi un peu plus comme un musicien. Voyez-moi un peu plus comme un musicien. » Mais je pense que Nietzsche, musicien, il l'a été, mais il ne l'a pas été forcément avec l'instrument, le piano, notamment, qu'il maîtrisait très très bien. Il était un très très grand improvisateur. David et Fiorio, via Carlo Alberto, à Turin, justement, quand Nietzsche a perdu un peu la boule, quand il a un peu perdu la tête, qu'il le retrouve la nuit à demi nu en train de jouer sur son piano, sans doute qu'il découvre d'une certaine manière un pianiste. Hein,
oui.
Mais Nietzsche jouait du piano déjà jeune, il improvisait même devant les autres. Mais ça n'a jamais été un très très grand musicien en tant que compositeur. Par contre, je pense que la musicalité se retrouve d'une part dans ses tentatives poétiques qui sont inégales, mais surtout, tout simplement, dans son écriture, même en prose, et dans sa pratique de l'aphorisme. Mmh. Donc Nietzsche a un sens du rythme, il a un sens des tonalités, il a un sens de la couleur, il a un sens de l'organisation, qui en fait un musicien, mais un musicien, je dirais, plus par la plume que par l'instrument.
Dorian Astor, vous qui êtes spécialiste de Nietzsche, philosophiquement, est-ce que vous le regardez, et puis qui êtes aujourd'hui, vous travaillez dans un opéra, vous êtes musicien, vous êtes aussi musicien, est-ce que vous regardez Nietzsche comme un musicien?
Oui. L'absence de technique de compositionnelle chez Nietzsche est liée au fait qu'il ne s'est pas formé suffisamment. On voit, On voit dans ses œuvres qu'il a généralement de bonnes intuitions et qu'il ne sait pas développer. Il ne sait pas finir. Donc, ce sont généralement les structures qui sont bancales et puis son harmonie est un peu maladroite.
C'est du piano toujours, ce qu'il fait, ce qu'il compose.
Alors, il y a du piano, il y a piano, violon de mémoire, il y a des chœurs.
Mm-hmm. Et on le joue parfois, Nietzsche?
Alors, moi j'avais fait en Allemagne des concerts lectures avec la musique de Nietzsche régulièrement. Moi-même j'avais conseillé à l'époque de pas faire un programme intégral sur Nietzsche, et donc on avait ajouté du Liszt et du Wagner au piano et chant. Mais ce qui est vraiment, je pense que Stéphane a raison, cette musicalité. C'est aussi, bon, évidemment, une musicalité de son écriture et de sa prose, en réalité. Je pense que c'est un des plus grands prosateurs de langue. Il est devenu un des plus grands prosateurs de langue allemande. Mais c'est aussi un type de sensibilité, et c'est précisément une sensibilité de l'oreille. Ce que Stéphane disait aussi au début, cet organe. À propos de Peter Gast, il faut savoir que Nietzsche souffrait de telles migraines et qu'il a pendant des années dicté ses textes à Peter Gast. C'est-à-dire que son rapport à l'écriture est passé par une oralité. Et c'est difficile encore pour moi à imaginer aujourd'hui Nietzsche non pas seul avec sa plume, mais en train de dicter à Peter Gast, parce que écrire, relire le faisait trop souffrir. Donc il y a vraiment cet art du rythme oral, de la déclamation, qui va très bien servir aux aphorismes. Et voilà. Et après, sur les qualités de Nietzsche, une dernière chose, pardon, quand Nietzsche a envoyé sa musique à Hans von Bülow a répondu une lettre extrêmement insultante, en lui disant vraiment restez à votre place, quoi, faites de la philologie, de la philosophie. Et il lui a dit, c'est ce que je lis est un viol de Terpsichore, c'est-à-dire un viol de la muse de la musique.
Mais ça devait être terrible pour Nietzsche.
Ça a été terrible. Et alors, ce qui est absolument bouleversant, c'est que il va lui répondre. Et au lieu de se draper dans son orgueil, il fait une réponse extrêmement sincère, et il fait un mea culpa d'une certaine manière. Et il lui dit, mais c'est dur de me parler comme ça, parce que je n'ai peut-être pas le niveau, mais j'en ai besoin. J'ai absolument besoin de composer. J'ai absolument besoin de la musique dans ma vie. Et donc, il lui signale, au fond, que Hans Bülow a blessé quelque chose de très intime en lui. Ce qui montre aussi qu'il ne s'agissait pas pour Nietzsche d'ambitionner une carrière professionnelle. Il voulait juste pouvoir s'exprimer et partager ça.
Ce qui montre aussi, si je puis me permettre, c'est qu'on dit toujours Nietzsche, c'est la volonté, c'est la bête de proie, la volonté de puissance. Bon, mais Nietzsche, c'est aussi savoir souffrir, savoir dire qu'on est blessé, recevoir un coup, et ensuite se reconstruire. Cette lettre, je trouve ça très touchant ce que vous venez de dire. Ce qu'il dit à von Bülow, c'est « Vous m'avez touché au cœur, au corps. Ce n'est pas la notion de pathos, c'est également très nietzschéen. » Qu'est-ce que vous pourriez dire de tout cela, Stéphane Flocari, notamment de ce fantasme de musicien qui s'avère vain? Il n'est pas bon, Nietzsche.
Je partage vraiment les constats et les rappels de Dorian, qui sont très justes. Mais Hans von Bülow a été le premier mari de Cosima Wagner. Donc il y a aussi toute une constellation wagnérienne que Nietzsche paye un peu, sans doute, une proximité avec Wagner. Et puis Nietzsche a voulu plaire, il a voulu plaire à Wagner. Il s'est quand même choisi comme premier mentor, l'un des grands compositeurs de son époque, même si sa relation à lui va être complètement ambivalente, comme elle l'est avec Schopenhauer. Alors je crois que si on veut entrer dans Nietzsche, et si on veut comprendre cette fragilité, cette sensibilité vers laquelle vous faites question ici, il faut comprendre que chez Nietzsche, un peu tout est ambivalent. Je voudrais revenir juste un instant sur l'hystérie et les femmes, ce que vous avez dit avant. C'est extrêmement important. Parce que ce que Nietzsche appelle hystérie, ça n'a rien à voir avec l'utérus ou avec ce que la psychiatrie ou même ce que Freud a pu dire. C'est, l'hystérie chez Nietzsche, elle est pensée du point de vue de ce qu'il considère comme une sorte de dérèglement physiologique. Mais la physiologie, ce n'est pas simplement le corps au sens organique. C'est un certain jeu, une certaine organisation de pulsions, de forces, d'affects. Donc, il y a chez Nietzsche, autour du féminin dans la relation à la musique, et autour de la musique elle-même, on va y venir, j'espère, après, quelque chose qui est de l'ordre d'une grande ambivalence. C'est-à-dire que d'un côté, il critique tout ce qui est de l'ordre du féminin, et il dit même d'ailleurs à un moment que la musique de Wagner n'est audible que par des oreilles féminines. Ce qui n'est pas du tout un compliment dans sa bouche. Et d'un autre côté, il y a un lien, si vous voulez, très fort avec le féminin dans la musique de Nietzsche, parce que le féminin ou la femme, ou les femmes, je préfère dire les femmes que la femme d'ailleurs, c'est ce qui peut aussi donner des raisons d'aimer la musique. Et ce qu'il découvre dans la musique de Bizet, ce qu'il découvre dans la figure de Carmen, c'est une figure précisément de la femme comme figure de la belle humeur, de la Heiterkeit. Et donc, il y a chez Nietzsche toujours une très grande ambivalence. On va le retrouver, si on approfondit les choses un peu plus, comme le disait Dorian, d'un point de vue philosophique, dans sa relation à Schopenhauer. Parce que c'est à travers Schopenhauer que Nietzsche a pensé la musique dans la naissance de la tragédie.
Quand même, je ne résiste pas à l'envie de vous demander, Dorian Astor, vous qui êtes musicien, ce que vous comprenez de l'engouement extraordinaire de Nietzsche pour la Carmen de Bizet. Je crois qu'il ne cessait d'aller à l'opéra. Quand, chaque fois qu'il était en Italie, que c'était joué, il était, y compris à Venise, il y était tout le temps. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans cet engouement exceptionnel ?
Il y a évidemment plusieurs choses. La première chose qui frappe, c'est que Nietzsche parle souvent, lorsqu'il parle de Carmen, en réalité, il parle de la nouvelle de Mérimée. C'est une première chose. Et Stéphane a raison, il trouve là un personnage de femme absolument tragique. C'est-à-dire que le personnage de Carmen est un personnage tragique qui assume, défend sa liberté jusqu'à la mort. Frappe-moi donc ou laisse-moi passer. Cette chose-là, cette sensualité tragique, c'est-à-dire cette force qui va... Et qui n'apparaît, allumeuse que pour des hommes médiocres, hein, c'est-à-dire Don José, en réalité, c'est une force. Enfin, Nietzsche dit à un moment qu'il y a une lumière africaine, c'est-à-dire vraiment quelque chose lié à des forces fondamentales de la nature et évidemment du corps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce personnage-là s'oppose. Vous parlez d'hystérie, moi aussi, j'aimerais bien y revenir. Parce que Nietzsche, à propos de Wagner, il critique les personnages féminins des opéras de Wagner et il dit « je déteste les femmes hystériques ». Ok. Ce dont il parle, ce sont des personnages féminins fantasmés par un homme, Wagner, qui lui-même avait un rapport assez compliqué avec les femmes. Il se trouve que les personnages féminins des opéras de Wagner sont sacrificiels, entièrement dévoués au salut d'un homme. Donc il y a une espèce de fantasme très régressif chez Wagner de trouver dans la femme la fidélité absolue, la maman protectrice, etc. Donc il y a femme et femme, et comme dit Zarathoustra quelque part, je cite de mémoire, en gros les hommes ont toujours les femmes qu'ils méritent.
Et donc l'accusation d'hystérie, puisque ce n'est pas positif, pour aucun des deux ce n'est positif, ça parle de ces hommes parlant des femmes, bien plus que des femmes.
Oui. Mais Zarathoustra, dans Zarathoustra, il y a des passages qui sont souvent assez désagréables à lire concernant les femmes. Mais si vous regardez, ça se termine toujours par l'explication causale des hommes. Hein, c'est-à-dire que l'image ou le type féminin que Nietzsche attaque est un type féminin conçu dans un certain type de culture et qui est idéaliste et contraire aux valeurs de la terre, j'allais dire. Et on le voit bien dans son rapport à Lou von Salomé. On pourrait faire un parallèle entre spirituel et sensuel, mais un parallèle entre Lou von Salomé et Carmen, hein, qui sont des fauves en réalité.
Je vous propose d'écouter un passage du Gai Savoir de Nietzsche, où il évoque, c'est une question que vous connaissez de près, Dorian Astor, le rapport entre les mots qu'on fait dire à l'opéra, au personnage et la musique. Je vous propose, évidemment, il y a encore une pique à Wagner. Écoutez cet extrait.
C'était de beaux discours que se préoccupait Sophocle. Qu'on me pardonne cette hérésie. Il en est fort différemment de l'opéra seria. Tous ces maîtres tiennent à empêcher que l'on comprenne leurs personnages. Que quelques mots saisis au vol viennent parfois en aide à l'auditeur distrait, il faut dans l'ensemble que la situation s'explique d'elle-même, peu importe le genre de discours. Telle est leur pensée à tous, et ainsi ils ont mené leur facétie avec les mots. Peut-être ont-ils manqué d'audace pour exprimer leur dernier mépris de la parole. Un peu plus d'impertinence chez Rossini, et ils n'auraient fait chanter que du « la 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 » d'un bout à l'autre. Ce qui du reste eût été plein de raisons. Le fait est que les personnages d'opéra ne doivent pas être crus sur parole, mais sur le ton. C'est là la différence, c'est là la belle antinature pour laquelle on va à l'opéra. Même le recitativo secco ne doit pas au fond s'entendre en tant que texte et parole. Cette sorte de demi-musique est plutôt destinée à donner d'abord quelque repos à l'oreille musicale, le repos de la mélodie en tant que sublime jouissance et donc aussi la plus épuisante de cet art. Mais tout aussitôt quelque chose d'autre, à faire naître une croissante impatience, une croissante répugnance, une nouvelle convoitise de musique totale, de mélodie. Considéré de ce point de vue, qu'en est-il de l'art de Richard Wagner? Peut-être autrement? Souvent, j'avais l'impression qu'il eût fallu savoir par cœur les paroles et la musique de ses œuvres avant leur représentation. Cela, ainsi me semblait-il, sous peine de n'entendre ni paroles, ni même de la musique.
Nous dit ici que les personnages des opéras doivent être compris non par leur texte, mais par la musique. Et il y a une petite pique à Wagner, je propose qu'on n'y retourne pas. On a évoqué en longueur cette relation complexe à Wagner. Ce que je voudrais savoir là dans cette série sur Nietzsche et l'Italie que nous faisons cette semaine et aujourd'hui nous évoquons le rapport à Venise, c'est-à-dire à la musique pour Nietzsche. Je voudrais savoir, Stéphane Floccari, comment cette musique qui n'a pas besoin de paroles est pensée philosophiquement par Nietzsche.
Oui, alors pour dire juste un mot de sa relation à l'opéra, effectivement, il y a le problème du texte et il y a le problème du fait que le texte semble, pour Nietzsche, dans l'opéra, et je crois qu'il n'est pas que cela du tout, mais il semble pour Nietzsche devoir être une sorte de passage obligé pour de mauvais auditeurs pour comprendre ce qu'il y a dans la musique. Or, Nietzsche est quelqu'un qui, si je puis dire, voudrait se brancher directement sur le transformateur musical quand il écoute de la musique, sans passer par la médiation nécessairement des mots. Parce que la musique parle, la musique nous dit des choses. Encore faut-il l'entendre. Et Dorian avait mille fois raison tout à l'heure de dire à quel point Nietzsche a souffert de la surdité de ses lecteurs à ses livres. Mais alors, dans la musique, c'est carrément insupportable d'être sourd à ce que la musique dit. Or, ce que dit la musique et ce qu'exprime la musique chez Nietzsche, c'est pas simplement une affaire de goût personnel, encore moins une affaire de divertissement, c'est une affaire profondément philosophique et métaphysique.
Et par exemple, quel est le... Vous évoquiez tout à l'heure le rapport à Schopenhauer.
Alors,
Schopenhauer. Vous pourriez préciser ?
Alors, bien sûr. Dans La naissance de la tragédie, vous avez dans certains chapitres, notamment vers la fin, des passages entiers du monde comme volonté, comme représentation.
Donc, Nietzsche citant entièrement Schopenhauer.
Recopiant même. Recopiant carrément Schopenhauer. Vous comprenez à quel point Wagner a apprécié tout cela. Mais l'héritage schopenhauerien de Nietzsche à propos de la musique, c'est que de tous les arts, la musique est l'activité métaphysique par excellence. Autrement dit, de quoi parle la musique chez Schopenhauer ? Chez Schopenhauer, la musique, elle est au-delà du monde phénoménal. Elle est au-delà des idées elles-mêmes. Elle est l'essence même du monde. Et il faut savoir que le premier Nietzsche, celui de La naissance de la tragédie, qui semble avoir pris ou avoir mis les vêtements d'un philologue, est en fait un nouveau métaphysicien. Un métaphysicien qui aura un certain repentir plus tard, hein, même s'il dira que la grande qualité de La naissance de la tragédie, c'est que dedans, il n'y a absolument rien de chrétien, il n'y a absolument rien de moral. Mais qu'est-ce qu'il y a dans La naissance de la tragédie ?
Nietzsche sait très bien plus tard que le jeune Nietzsche qu'il était dans La naissance de la tragédie faisait de la métaphysique, ce qui n'est plus du goût du Nietzsche plus âgé, mais au moins allait-il chercher le monde païen grec et pas le christianisme. Ça, au moins, il trouvait qu'il pouvait se pardonner ces écarts métaphysiques s'il y avait cela.
Absolument. Mais là, il y a un point qui est absolument essentiel sur lequel il faut qu'on s'arrête. C'est que La naissance de la tragédie paraît en 1872. 14 ans plus tard, en 1886, quand Nietzsche a décidé de changer d'éditeur, il refait des nouvelles préfaces à tous ses ouvrages. Et il change le titre de La naissance de la tragédie, hein, qui va faire le lien entre les Grecs et le pessimisme, et non plus définir la tragédie comme étant enfantée par l'esprit de la musique. Pourquoi ? Parce que dans La naissance de la tragédie, Nietzsche a développé effectivement une métaphysique de l'art. Cette métaphysique de l'art, c'est l'idée qu'il existe un nain originaire. Il existe un nain fondamental sur lequel reposerait le monde entier. Or, qu'a fait Schopenhauer avec la musique ? Il a dit que cette essence intime du monde, c'était la musique elle-même. Et donc, Nietzsche est quelqu'un qui va entrer dans la musique par Schopenhauer. Mais chez Nietzsche, vous savez, la relation à Schopenhauer est extrêmement ambivalente. En fait, la distance est quasi immédiate, même quand il le recopie. Et son rapport à la musique, là, il faut le dire, le rapport de Nietzsche à la musique. Nietzsche, c'est quelqu'un qui vous dit à la fois « La vie sans la musique serait une erreur, une fatigue, un exil. Bon. » C'est quelqu'un qui écrit qu'il faut prendre garde à la musique. Bon. Et d'un autre côté, c'est quelqu'un qui vous dit que la musique, c'est à la fois ce qui est indispensable à la vie et à l'existence, et en même temps ce dont il faut se méfier, parce que le risque de la musique, c'est d'être une ruse, une perfidie, et de vous faire perdre le contrôle de vos émotions et de vos passions. Il écrit néanmoins dans Par-delà bien et mal, dans l'aphorisme 106, que la musique, c'est ce qui nous permet de jouir de nos propres passions. Bref, Nietzsche, c'est quelqu'un qui va, partant de Schopenhauer et plaçant la musique dans un arrière-plan métaphysique, construire sa propre physiologie de l'art et associer la musique à la passion.
Vous êtes d'accord avec cette analyse, Dorian Astor ?
Oui, absolument. La référence à Schopenhauer, elle est d'ailleurs au cœur de l'aphorisme 80 du Gai Savoir qui vient d'être lu, c'est-à-dire que, comme dans La naissance de la tragédie, le passage qui indique que si Rossini avait été un peu plus impertinent, il aurait tout fait chanter sur la la la, la la la, ça vient de Schopenhauer. Or, Géraldine, vous ne vouliez pas revenir à Wagner, nous sommes obligés.
Je ne voulais pas en faire trop, mais il faut en faire trop parce que c'est tellement important chez nous.
Voilà, non, mais surtout il y a là une triangulation, c'est-à-dire que pour essayer de le dire très très vite, Il y a deux histoires conceptuelles qui se croisent. Il y a celle de l'histoire de l'opéra, qui est, pour le dire très vite, dès sa naissance, prima le parole e poi la musica. D'abord les paroles, ensuite la musique. Oui. C'est-à-dire que l'opéra naît d'une tentative de sublimer la déclamation par le chant. Et peu à peu, et évidemment où ça se passe au XVIIIe siècle en Italie, le chant va s'autonomiser complètement au point que les castrats, par exemple, pourront chanter 10 minutes sur Felicita ou Dispetto, que sais-je, sur un mot avec de très très longues vocalises. C'est-à-dire que la voix devient purement instrumentale. Schopenhauer, comme le disait Stéphane, lorsqu'il fait de la musique l'expression ou l'image la plus immédiate du monde comme volonté, c'est-à-dire de l'en-soi métaphysique, pour le dire vite, il va bien stipuler que, précisément, la musique pure, c'est-à-dire sans parole, la musique instrumentale, est exactement cette image-là. C'est-à-dire que le texte, les paroles, sont du domaine de la représentation et du signifiant. Donc, dans l'opéra, d'ailleurs, Schopenhauer n'est pas très amateur d'opéra, il est assez conservateur dans ses goûts. Au fond, le texte serait de l'ordre de la représentation, au sens philosophique et au sens théâtral, tandis que la musique, le chant pur, la mélodie pure, nous connecterait directement à l'en-soi, au monde comme volonté. Or, Wagner, dans ses écrits théoriques, va tout faire pour essayer de se réapproprier Schopenhauer pour montrer, prouver effectivement que la musique est une expression métaphysique et évidemment pour dire quoi, si on le caricature un peu, moi Wagner, je suis un génie métaphysique. Et Wagner va essayer à tout craint d'articuler à la fois la métaphysique de Schopenhauer et le fait qu'il veut revenir au prima le parole, que la musique découle entièrement du drame. La musique wagnérienne est avant tout théâtre. Donc, reprenant dans cet aphorisme l'idée que la musique n'exprime qu'elle-même et qu'elle n'est pas de l'ordre de la représentation, il pose en fait, il met le doigt sur une des plus grandes difficulté théorique de Wagner, qui en réalité est un compositeur de musique pure, mais ça on pourra en reparler, lui-même s'arrache les cheveux quand vous écoutez Tristan et Isolde, bien sûr, le texte. Mais la métaphysique vous saute au visage à l'orchestre. Donc voilà, il y a là une triangulation, sachant que Wagner, mais ça je développe pas, je m'arrête tout de suite, Wagner a écrit quand même de très nombreuses pages sur Rossini et sur la question de la mélodie pure, justement.
J'aimerais bien qu'on revienne à la ville, puisque notre série essaye de suivre Nietzsche dans une série de villes italiennes. Alors, Venise, justement. Venise, il y est allé plusieurs fois. Son premier voyage à Venise, vers 1880-81, mars 1880, le tout premier séjour, c'est donc avant ce que nous avons évoqué hier, à savoir Messine, qui est un moment très très important, avec 3 semaines en 1882. Et c'est à Messine, si je ne me trompe pas, Stéphane Flocari, que Nietzsche a écrit Aurore. Je crois que c'est ça.
À Venise, vous voulez dire.
À Venise, pardon. C'est à Venise qu'il a écrit Aurore. Mais ce qui est troublant dans Aurore, qui donc est de 1881, c'est que ça fait signe vers la nuit vénitienne. C'est-à-dire que c'est comme si, vous l'avez dit au début, l'oreille, organe de la peur, je cite Nietzsche, ne pouvait se développer que dans la nuit et la demi-nuit des forêts sombres et des cavernes. Dans la lumière, l'oreille est moins nécessaire, écrit-il, dans Aurore, d'où le caractère de la musique comme art de la nuit et de la pénombre. Donc Aurore est écrit à Venise, mais je crois que il le porte ailleurs, en Italie. Mais Aurore nous dit que la musique, c'est les ruelles sombres de Venise, inévitablement.
Alors, il en a vraiment eu besoin de l'aurore à Venise, Nietzsche, parce que s'il y a une ville dont il se plaint, s'il y a une ville qu'à la fois il a aimée, mais avec laquelle il a été physiologiquement en désaccord profond, c'est Venise. C'est une ville où il est allé pour la musique, à propos de la musique. C'est là qu'il n'y avait que Solitz, Mais c'est une ville dans laquelle il a tellement souffert de la brume, vous savez.
Oui, Nice, en fait, il préfère la lumière de Messine très nettement.
Absolument, c'est-à-dire,
à
si, on parlait, si on resitue Nietzsche dans son rapport à l'Italie, si vous voulez, c'est vraiment un de ces lieux impossibles où il va, où il revient, effectivement. Il y va la première fois entre mars et juin 1880. Il viendra ensuite plusieurs fois au printemps, une fois aussi à l'automne. Mais à Venise, que fait Nietzsche? Qu'est-ce qu'il éprouve à Venise? Alors, effectivement, c'est pour nous, dans l'imagerie traditionnelle, comme une sorte d'image d'Épinal, Venise, c'est la ville de du couple, de l'amour, etc. Hein, même si le pont des soupirs n'est pas celui des soupirs amoureux, hein, c'est celui des soupirs avant de se faire emprisonner, hein, puisque ça passe entre le palais des Doges et la prison. Donc là, on soupire avant de se dire « bon, bah, je serai libre seulement dans très longtemps ». Et Nietzsche parle de ses 100 solitudes. C'est un moment où il est... De ses 100 solitudes, C-E-N-T, le chiffre. C'est la ville des 100 solitudes pour lui.
Ah, la centaine de solitudes.
La centaine de solitudes. C'est vraiment un endroit où il est torturé, il est tourmenté.
Donc en fait, il ne va pas bien physiquement à Venise, mais contrairement aux villes de lumière, Sorrente, Messine. Mais c'est là que ça se joue, la musique. C'est dans cette souffrance même.
Oui, et puis, comme nous le disions déjà, Nietzsche, quelqu'un qui vous dit que ce que nous éprouvons d'un lieu est ce que nous y projetons. Donc, il y a des possibles qui sont en moi et qui deviennent la réalité du lieu. Or, que fait Nietzsche quand il est à Venise? Il essaye de marcher, il essaye de trouver un lieu où il peut être. Il y en a deux formidables qu'il trouve. Il en parle même dans les généalogies de la morale, dans la deuxième dissertation. Il évoque un palais qu'il a eu juste derrière San Marco, où Nietzsche aimait les plafonds très très hauts et les pièces très profondes, sans doute pour que la lumière précisément entre. Mais c'est surtout du côté du Palazzo Berlendis, qui se trouve au nord, à côté de la Fondamenta Nuova, au nord de Venise, au Canareggio. C'est là que Nietzsche a trouvé une sorte d'équilibre. Alors, les cali, les ris de Venise sont des lieux dans lesquels il traîne un peu quand même sa solitude. Alors, en termes de livres, il faut dire quand même que Aurore, qu'il publie, comme vous le dites très justement, en 1881. C'est un texte qu'il commence à écrire en 1880. On a deux épais carnets de Nietzsche qui contiennent au départ 262 aphorismes très serrés, écrits par Nietzsche et en partie dictés à Koesselitz. Et le premier titre qu'il a donné à ce manuscrit, c'est « L'ombre de Venise ».
Et oui,
on n'est pas dans le soleil de Messine, là.
Mais c'est plus fidèle que le mot « aurore » qui évoque une lumière, justement.
Qui évoque une lumière et des matins rouges, surtout, étymologiquement, puisque Morgenröte, c'est ça en allemand. Donc la couleur des couleurs, la question des couleurs, elle est essentielle chez Nietzsche. J'aurai l'occasion d'en parler.
Vous avez fait une grande partie de votre thèse sur cette
J'espère publier ma thèse là-dessus, d'ailleurs, sur cette question de Nietzsche et les couleurs de l'existence. Mais... si vous voulez, moi, quand je pense à Venise, et quand je pense à Nietzsche à Venise, je pense à ces scènes de Senso, de Visconti, où le personnage principal se balade dans la ville avec des couleurs violacées, avec les ris, avec l'eau, pleine de mystère. Et pour Nietzsche, Venise, c'est ça.
Dorian Astor, je suis désolée, je n'ai qu'une grosse minute à vous laisser sur ce sujet de Venise et de la musique et de la nuit et de la non-lumière, mais vous avez sans doute beaucoup à dire, je vous écoute.
Oui, très brièvement, les ruelles sombres de Venise, ces 100 solitudes dont parle Stéphane, cette fascination pour ces mélodies entendues, ces chants de gondolier qui vont d'ailleurs influencer à peu près toute la musique allemande, si on pense à Schumann, Mendelssohn, enfin tout le monde écrit des barcaroles, il y a quelque chose de très nostalgique, c'est un peu le pendant italien du chant populaire, du Volkslied allemand qui a nourri les musiciens romantiques, mais cette chose-là, c'est que ce moment, comme nous le disions tout à l'heure, de l'intériorisation, le moment du bilan aussi, rapporte Venise qui est quand même un sommet de civilisation. Nietzsche a des mots extrêmement admiratifs sur l'ancienne République de Venise, et qui est une ville qui est menacée dans son existence, qui est menacée d'être engloutie, et elle est tellement un symbole du devenir des civilisations, et que c'est précisément le moment où Venise, signe fragile d'une gloire passée, est réarticulée à la musique, cette musique, ces mélodies, qui rappelle à Nietzsche les mélodies de l'enfance. Et comme vous le disiez au début, cette idée que la musique est toujours une tare venue, un art qui fleurit au fond peu avant l'effondrement. Et je trouve que à Venise, il y a cette chose-là qui est le moment où il faut entrer en soi pour percevoir un lointain passé. C'est cette Sehnsucht, cette nostalgie qui est très romantique, et le moment de l'effondrement, c'est-à-dire des possibilités d'un avenir, d'une reconstruction, d'un nouvel avenir.
Vous entendez Francesco De Gregori, O Venezia, Che sei la più bella. J'espère que je l'ai bien dit, je ne suis pas sûre. C'est un choix de Dorian Astor, merci beaucoup. Je vous remercie tous les deux, Stéphane Flocari et Dorian Astor, pour cette magnifique conversation sur Nietzsche, Venise et la musique. À présent, nous faisons cela cette semaine, un hommage à Jürgen Habermas, philosophe allemand mort samedi 14 mars. Nous donnons la parole à certains penseurs spécialistes de son œuvre. Écoutez, je l'ai enregistré hier, Arno Münster. Bonjour Arno Münster.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à la retraite de l'université Picardie Jules Verne, franco-allemand, excellent connaisseur de l'histoire intellectuelle allemande, des différentes générations, notamment de penseurs allemands et de l'école de Francfort. Vous avez tout particulièrement travaillé sur Ernst Bloch, mais aussi vous avez proposé des travaux sur Habermas. Ma question est celle-ci, pourquoi et en quoi l'œuvre philosophique de Habermas est-elle importante?
Habermas incarne, d'une manière exemplaire, je pense, cette seconde génération de l'école de Francfort. Et n'oublions pas qu'il était l'assistant de Adorno et de Horkheimer, l'Institut de philosophie de l'Université de Francfort. Et il est dans un sens un des intellectuels les plus importants de l'après-guerre de l'Allemagne, où il incarnait, un peu comme le professeur en France, hein, la conscience morale d'une nation, mais avec la nuance précisément que cette conscience de l'intellectuel critique Habermas a été, on peut dire, en un sens, au niveau du retour à la démocratie ou la construction d'un État démocratique moderne, mais en pleine conscience de l'immense culpabilité des Allemands.
Arno Münster, est-ce que vous pourriez préciser le rapport de Habermas, assez conflictuel quand même avec la première génération de l'école de Francfort, Adorno et Horkheimer, et aussi en quoi lui comprend, Habermas, donc, que nous sommes dans une modernité inachevée? Qu'est-ce qu'il veut dire?
Habermas, c'est ça le qui le caractérise, il conserve quand même du marxisme, et encore après son tournant langagier et communicationnel, il conserve la critique de l'aliénation et de la réification de la conscience. Or, il ne rejoint aussi pas vraiment Adorno et Horkheimer à propos de leur thèse exprimée dans la dialectique de la raison, une vision beaucoup plus positive de la raison, héritée des Lumières, précisément de la raison sous la forme de la rationalité communicationnelle, qui sera le concept central de son important livre « Théorie de l'agir communicationnel » publié en 1982. Et contrairement à ce que nous enseignent les pères fondateurs de l'école de Francfort, Habermas semble être convaincu, je pense à ça mérite d'être souligné, que la fonction de la raison, il y tient beaucoup à ça, est plutôt de rendre raisonnable le déraisonnable. Alors c'est le contraire de ce que dit Adorno, hein, c'est la raison pour laquelle il considère les critiques, à savoir les attaques des penseurs postmodernes contre la raison, notamment leur affirmation qu'elle comporterait des conséquences totalitaires, les considère comme totalement, ces critiques comme totalement exagérées. Habermas, je conclue, oppose en effet, lui, le concept de la théorie d'une raison communicationnelle qui s'exprime dans les mouvements sociaux.
Merci beaucoup Arnaud Münster, c'est un cadeau pour Habermas et puis pour nos auditeurs. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, dont la série cette semaine a pour thème la domination. Voici le pourquoi du comment.
Comment échapper à la domination ? Nous sommes toujours sidérés dans nos sociétés qui progressent vers la démocratie, en tout cas qui se la sont donnée comme une norme et qui connaissent aussi ses difficultés. Nous sommes toujours sidérés devant le retour de l'expérience de la domination, c'est-à-dire de la contrainte imposée par une liberté ou par un groupe d'être libre à une autre liberté ou à un autre groupe d'être libre. Nous en sommes sidérés, mais nous savons que cela ne cesse de revenir et il faut bien sûr accepter le fait que, contrairement aux apparences, ce ne sont peut-être pas la liberté et l'égale liberté de tous les êtres humains qui sont premières, mais plutôt, au contraire, le risque structurel de la domination qui est premier et contre lequel les libertés doivent se construire. En analysant ce risque et en répondant au danger qui est peut-être la source de ce risque et non seulement en le niant d'une manière superficielle et extérieure. Il y a bien sûr une critique de la domination qui vient d'ailleurs de la théorie même de la liberté. Sartre et par exemple les lecteurs de Hegel en sont les tenants. Ce sont ceux qui montrent l'émergence de la domination au cœur de la relation entre la liberté des uns et des autres et la nécessité de faire apparaître l'égalité entre les libertés dans la relation même entre les êtres humains. Mais il y a peut-être aussi plus profondément, comme l'ont montré certains philosophes de la vie et de l'histoire, il y a aussi un désir de domination qui vient de la finitude même des êtres humains. Nous sommes confrontés à des dangers, nous avons des peurs, nous avons des besoins. Il y a besoin de survivre. La question de la survie justifie très souvent celle de la domination. Nous acceptons une domination pour ne pas être soumis à la guerre de tous contre tous. Nous sortons d'une domination, parfois en entrant dans une autre. Et nous nous confions à un maître pour échapper à la misère, à la peur ou à la guerre. Il faut donc admettre le fait, comme le montre Bergson aussi pour la société close par opposition à la société ouverte, que la clôture et la hiérarchie, comme il dit, la clôture et la domination sont des risques structurels aux vivants humains. Et il faut admettre qu'il faut répondre à ces risques non seulement par l'émergence des libertés, mais par une organisation qui nous permette de répondre, par exemple, au risque de la violence interhumaine, des crimes dans une société, mais aussi au risque de la misère et de la guerre extérieure et de la catastrophe aussi en général. Comment répondre à ces risques ? Ce ne sera pas seulement par la résistance des libertés, aux dominations conscientes ou inconscientes dans une société démocratique, même si c'est fondamental, c'est aussi la reconnaissance d'obligations communes. Dans la théorie démocratique, il n'y a pas seulement l'émergence de la liberté, il y a l'opposition de l'obligation de la loi à la domination. Obéir à la loi, ce n'est pas se soumettre à un maître. Cette distinction fondamentale est évidemment aussi nécessaire que l'affirmation de la liberté pour résister ou pour échapper à la domination. La loi n'est pas une domination arbitraire dans la mesure où elle est discutée par des libertés, disputée aussi, construite par une élaboration collective et démocratique, et où elle lutte aussi contre les dominations de fait dans une société. Il n'y a donc pas seulement une opposition entre liberté et égalité d'un côté et tous les mécanismes des dominations conscientes ou inconscientes, mais on résiste à la domination par l'autorité de la loi.
Et c'est sur la musique de Bellini que je vous dis au revoir ce matin. Merci Frédéric Worms. Bellini que, comme Rossini, Nietzsche adorait. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Alex Dang et un immense merci à Ici Occitanie à Toulouse pour le duplex avec Dorian Astor. Cette émission a été préparée en particulier par Anna Fulpin et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Nassim El Kabli, Corinne Amar, Luna Adjla et Antoine Ravon. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité !